les fonds de dotation américains comptent parmi eux certaines des institutions les plus prestigieuses au monde. Leur enfant chéri est le Yale Investment Office, dont le rendement historique de près de 12 % sur 20 ans fait l'envie des investisseurs à travers la planète. Toutefois, même Yale a ralenti considérablement avec un rendement de seulement 7,4 % depuis 10 ans. Bonjour, je m'appelle Raymond Kerzerot et je suis directeur de la recherche avec PWL Capital. Dans ce nouvel épisode de l'investissement décomplexé, les gestionnaires de portefeuille James Parkin et François Doyon-Larochelle, ainsi que moi-même, vous proposons un tour d'horizon des fonds de dotation aux États-Unis. Nous discutons de plusieurs études portant sur ces fonds. Nous offrons un survol des stratégies de placement qu'ils préconisent, notamment les différences entre les très grands fonds et ceux de taille plus modeste. Finalement, nous nous attardons à la performance des fonds de dotation et discutons des implications pour les investisseurs particuliers. Bonjour messieurs, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Ça va très bien, Raymond. Très content d'être ici avec vous aujourd'hui.
Super! Moi aussi, je suis bien content. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les fonds de dotation aux États-Unis. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement dans l'œil du grand public, mais il y a des portefeuilles très, très importants qui sont gérés par ces organisations-là. Donc, on va jeter un coup d'œil là-dessus et puis également sur les recherches qui ont été faites à ce sujet-là. Donc, pour lancer le débat, James, peux-tu nous expliquer c'est quoi un fonds de dotation?
Un fonds de dotation, c'est un fonds qui est distinctement géré par des professionnels pour une organisation, dans ce cas-ci aux États-Unis, universitaire ou collégiale. Donc, ce fonds sert à supporter la mission à long terme de ces institutions d'études avancées. Le fonds est constitué de donations par des anciens de l'université ou du collège, et ou des donateurs, tout simplement, qui, eux, veulent supporter une école dans une activité de recherche ou de support aux étudiants. Donc, les fonds servent aux besoins courants de l'université, c'est-à-dire pour les étudiants qui sont aux études en ce moment. Ouais. Et ils servent aussi à générer, par la croissance, des fonds pour des futures générations d'étudiants. Donc, ce fonds de dotation, c'est effectivement le bas de laine de l'université pour l'aider à pallier à son budget au-delà des revenus qu'ils vont avoir par les frais d'admission, etc., ou les revenus des gouvernements qui les supportent.
Excellent. Alors, je pense que ça nous fait une bonne mise en contexte. Dans le cas de l'étude principale qu'on regarde aujourd'hui, effectivement, c'est les collèges puis les universités, mais tu peux avoir des fonds de dotation pour des hôpitaux, en fait, toute entreprise à but non lucratif. Ouais,
hein. Fondation québécoise du cancer, Fondation du CUSUM, des grands hôpitaux, Fondation de l'Université de Laval, ici qu'on peut reconnaître, ouais. Ici, dans la province. Là. Donc, toutes les fondations là, qui sont communes, qui sont connues.
Aux États-Unis, il y a des très, très gros fonds dans ce genre-là, je crois. Hein?
Oui, tout à fait. Bien, il y a les grandes universités. Là, on va en parler un peu plus tard. Mais oui, Yale, Harvard ont des très grands fonds de dotation. Là.
Donc, il y a une des études qu'on a regardées ensemble, c'est l'étude de Nakubo. François, c'est quoi Nakubo? Peux-tu nous expliquer ça un petit peu?
Oui, bien, Nakubo, c'est un organisme américain qui représente plus ou moins 1900 collèges et universités aux États-Unis. Son nom complet, c'est National Association of College and University Business Officers. Sa mission, là, en gros, là, c'est l'avancement de la viabilité économique des institutions d'éducation aux États-Unis. Donc, comme James l'a mentionné un peu plus tôt, c'est fournir des bourses d'études aux élèves, ouais. Fournir de l'argent pour de la recherche, de l'aide financière en tout genre là, sur le campus universitaire, la santé des étudiants, les services aux étudiants, puis aussi pallier au financement des universités. Donc, en général, là, les bourses, les endowments ou les fonds de dotation servent à ces différentes raisons-là que j'ai nommées. Et le rapport Nakubo va chercher de l'information de différentes universités et collèges, là, puis regroupe cette information-là pour faire une analyse.
OK. C'est quoi le sujet? Tu dis que tu nous fournis différentes analyses, mais oui, James, peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport-là?
Mais en fait, ça fait 45 ans que l'association étudie les statistiques pour aider les gestionnaires membres à évaluer les rendements composés des différents fonds de dotation, d'évaluer comment est-ce que les autres font leur allocation d'actifs, autrement dit, organisent leur stratégie de placement, leurs pratiques de gouvernance, et ici, il y a des bonnes méthodes et pratiques de gestion. Donc, le sujet abordé, c'est vraiment, ils ont envoyé un questionnaire à 802 des institutions membres et qui ont participé à l'étude. Cette étude-là est faite annuellement avec des données en date du 30 juin. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bassin d'investisseurs qui ont des objectifs très similaires, donc très comparables. Ouais. Et on a une base de données avec des périodes assez longues pour nous permettre de faire des analyses qui sont plus sérieuses, vu qu'on a assez de données pour pouvoir faire des conclusions qui sont statistiquement valables.
Oui, on a des rendements sur 10 ans, hein, si je me rappelle bien.
Oui. Donc, 802 institutions là-dedans. Il y a des grandes universités, donc il y en a de toute taille. Il y en a de taille qui ont plus de 1 milliard d'actifs. Donc, on parle vraiment des grandes universités dont les noms on connaît bien. Harvard, Yale.
Les universités de la Ivy League aussi, là. On parle de Princeton, ça. Dartmouth, Penn State, Brown, etc. Puis on parle, l'étude regroupe plus de 600 milliards d'argent investi. Comme James le mentionnait, il y a des très grandes institutions qui ont plus de 1 milliard sous gestion. Puis, mais il y en a plusieurs autres qui ont des montants beaucoup moins significatifs. Des 802 répondants là, en 2018, il y en a 104 qui ont plus d'un milliard sous gestion. Et il y en a 698 qui ont moins d'un milliard de suggestions, mais la grande majorité de l'argent géré dans ces fonds de dotation-là reste parmi les plus grandes, qui représentent 77 % des actifs suggestions, contre seulement 23 pour les plus petites.
Oui, c'est un peu la loi de Pareto. Hein? Le petit nombre d'institutions représente la plus grande partie des actifs suggestions. Donc, moi, ma réaction quand j'ai lu ce rapport-là, c'est « wow, il faut être nuancé quand même quand on fait des conclusions là, à ce sujet-là ». Heureusement, dans le fond, il y a plusieurs études qui ont été faites à propos des fonds de dotation, parce que, notamment, il y a le fameux gestionnaire David Swetson dans les années 2000 là, qui a attiré l'attention avec des rendements extraordinaires et qui a reçu énormément de publicité. Donc, depuis ce temps-là, c'est vraiment un groupe d'institutions qui attire énormément l'attention. Et c'est quelque chose à regarder de près. Mais en même temps, il y a aussi de plus petites institutions qui ont moins d'actifs sous gestion, puis les stratégies sont un petit peu différentes.
Ouais,
tu as mentionné David Swenson, c'est pas un nom qui est commun, peut-être pour la plupart de nos auditeurs. Effectivement, c'est celui qui gère a géré le fonds de dotation de l'Université de Yale. Et il a écrit plusieurs livres et il était vraiment le grand-père de la nouvelle génération, la nouvelle façon de gérer les actifs en faisant appel surtout à des placements alternatifs.
Ouais.
Et évidemment, c'est assez intéressant, on va en parler un peu plus tantôt, mais en dépit de toutes les ressources qu'il a, il a fait très bien pour l'université, mais en même temps, il y a eu des périodes où ça a moins bien été.
Ouais. Ouais, il a fait des choses pas mal. C'était un genre de pionnier, hein?
Tout à fait. Ils ont servi de modèle que plusieurs ont suivi, puis ça a donné des résultats pas trop reluisants. Fait que nonobstant ça, on a avec le rapport les données pour les 10 dernières années de la performance des grandes institutions comme les petites. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'un groupe qui, en temps normal, ils ont accès à beaucoup, beaucoup de ressources, que ce soit des experts internes, des experts en interne, pour pouvoir articuler leur politique de placement et pour pouvoir implanter et exécuter. Donc, en principe, ils devraient générer de très, très, très bons résultats.
Oui, puis avant qu'on rentre dans le détail, ce qui est frappant aussi de ce papier-là, c'est qu'il puis c'est le cas de plusieurs papiers qui touchent le sujet des fonds de dotation. Ils rapportent les rendements puis les répartitions d'actifs pour les institutions de différentes tailles. Donc, on peut comparer, par exemple, la performance des petits fonds de dotation, admettons, je vais dire un chiffre, 50 millions de dollars et moins, par rapport aux fonds de dotation qui ont plusieurs milliards de dollars qui peuvent se permettre d'embaucher des stars de Wall Street, par exemple. Exact. Donc, on peut mettre en parallèle les deux.
Bien, oui. C'est un élément qu'on ressort là, du rapport, c'est qu'il y a une très grande différence dans l'allocation d'actifs entre les petits et les grands fonds.
Ça m'amène là où je voulais aller, justement, bien, François.
Tout à fait. Puis cette différence-là est surtout au niveau des stratégies alternatives, là. Il semblerait, là, par le rapport, que plus les fonds de dotation sont grands, plus la pondération, l'allocation aux stratégies alternatives est importante.
Ouais.
Et plus ils sont petites, moins cette stratégie-là est adoptée. Donc, on parle de stratégies alternatives, on parle des fonds de couverture, on parle de placements privés, on parle de capital de risque, de l'immobilier privé.
Oui. Il ne faut pas oublier, dans le capital de risque, on parle de capital de risque puis de placement privé, de private equity.
Ouais, ouais,
donc,
exactement.
C'est deux catégories. Là.
Venture capital.
Le capital de risque, c'est vraiment beaucoup plus risqué comme truc. Là.
Donc, exemple, les fonds de dotation qui ont plus d'un milliard sous gestion, leur allocation au placement aux stratégies alternatives est de 58 %.
C'est colossal.
C'est colossal, en effet. Puis si
c'est
on voit
des trucs pas liquides, là, ou principalement. Il y a peut-être
principalement pas liquides. Les fonds de couverture vont être plus liquides, là, mais le reste, c'est très peu liquide. Puis si on regarde les plus petits fonds de dotation, mais il y a seulement 11 % de leur allocation qui est allouée aux stratégies alternatives. Là. Donc,
mais là aussi, les plus petites à 11 %, c'est des fonds qui ont moins de 25 millions. Il faut croire qu'ils n'ont vraiment pas les moyens d'engager les experts pour les aider, soit à l'interne ou à l'externe, à choisir ce genre de placement-là.
En tout cas, ils sont plus prudents.
Absolument. Fait que plus on augmente d'actifs, plus les fonds de dotation investissent dans les stratégies alternatives. Mais c'est quand même assez intéressant. Quand on regarde que si on prend pour les fonds de dotation de plus d'un milliard, ils ont 13 % en actions américaines. Alors que ça, c'est un regroupement américain. Donc, ce qu'on comprend comme les actions qui se transigent en bourse, donc sont très liquides, ce qu'on connaît, les indices, c'est seulement 13 % ce qu'appellent autre que les actions américaines, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur des États-Unis, donc ce qui inclurait le Canada, l'Europe développée, l'Asie développée, les marchés émergents, etc., c'est 19 % dans les marchés liquides. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que si on compare les grandes versus les petites, c'est que les très, très grandes, très, très grands, pardon, fonds de dotation ont seulement 7 % en placement à rendement fixe. Donc, ce que nous, on appelle
des obligations.
Des obligations. Ce qu'on appelle notre panier sécure, ils ont très, très peu d'argent investi, contrairement aux fonds qui ont plus un peu moins de 50 millions, c'est 22-24 % dans ces eaux-là. Fait que, et puis, l'encaisse, ils ont, les grands ont 3, puis les plus petits ont à peu près 5. Fait que c'est assez similaire. Un fonds de dotation, généralement, puis on le voit dans le rapport, ils doivent distribuer en moyenne 4,2-4,6 % par année du fonds. Fait que quand on voit que les rendements ont beaucoup baissé, les rendements qu'ils ont eu sur 10 ans, ça peine à couvrir leur rendement cible, qui est de 7,5 environ en moyenne. Et dans les 10 dernières années, on n'a vraiment pas gagné cela. On a fait du 5,8. Alors, c'est sûr que le rapport, il se termine en date du 30 juin. Donc, il inclut la crise financière, la pire période.
30 juin 2018, hein, faut préciser, parce que le rapport au 30 juin 2019 n'est pas encore
sorti.
Parce
que j'ai dit 2019,
non,
excuse-moi.
Non, je pense que tu étais correct.
Si on revient aux chiffres donnés, il y a très peu d'argent. Donc, eux autres, s'ils veulent pallier à des besoins de distribution, si puis il y a une grosse correction de marché, s'ils ne veulent pas vendre des actions au mauvais moment, ils vont quand même être forcés à piger dans un fonds d'encaisse puis d'obligations qui totalise seulement 10 % pour les grandes institutions, pas mal plus pour les plus petites. Donc, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils font cette allocation-là. Ils sont vraiment les grands fonds de dotation se sont dit « on a les ressources et les moyens d'aller embaucher des spécialistes dans les placements alternatifs », puis ils le font à preuve d'une allocation très forte de 58%.
Ouais. Puis cette allocation là, décroît de façon presque linéaire. Hein. On parle de 58% pour les fonds de dotation de plus d'un milliard, mais dès qu'on passe à
500 millions,
à 250, à 100 puis à 25, on voit une décroissance presque linéaire, beaucoup moins d'appétit. Puis les plus petits fonds ont presque une allocation traditionnelle revenu fixe puis, et actions, avec une petite portion qui est en stratégie alternative.
Mm. Puis au niveau des rendements, de quoi ça a l'air tout ça?
Bon, au niveau des rendements, encore une fois, si on regarde ça sur un an ou sur 10 ans, sur un an, encore une fois, jusqu'au 30 juin 2018, c'est 8,2 dans l'ensemble de toutes les institutions. C'est 9,7 pour les institutions qui ont plus d'un milliard, puis c'est 7,6 à l'autre extrême pour les plus petits. Ouais. Faut comprendre que parce que les grandes institutions ont investi beaucoup moins en obligations, c'est normal qu'il y ait eu un rendement plus élevé. Si on compare des arranges avec des arranges en termes du risque du portefeuille. Donc, si on compare ça comme rendement, ensuite, sur 10 ans,
ouais, c'est ça qui m'intéresse.
Le rendement, c'est 5,8%.
Pour l'ensemble?
Pour l'ensemble du cohort.
Puis là, est-ce qu'on voit une grosse différence entre les gros et les
petits? C'est encore drôle, mais non. C'est 6% pour ceux en haut d'un milliard, puis 5,8% pour ceux qui sont en bas. Puis quand on sait que leur allocation d'actifs est beaucoup plus risquée chez les grandes, parce qu'ils ont mis beaucoup plus en alternatifs, c'est assez décourageant que sur le long terme, en dépit d'avoir accès à des meilleurs gestionnaires, avoir accès à des ressources de pointe, de grande expertise et de grande renommée, ils n'ont pas beaucoup mieux fait que les plus petites qui ont été contraints à avoir un portefeuille beaucoup plus simple et souvent faisant appel à la gestion passive. Et sur ce point, je devrais enchaîner que le rapport nous permet aussi de voir que quand, exemple, les grandes institutions, eux, ils ont 13% investi en actions américaines dans les marchés publics, on sait d'après le rapport qu'au niveau de gestion passive, effectivement, ils ont à peu près 21% en gestion passive et 77% en gestion active.
Et moi, je vais ajouter qu'il y a beaucoup de gestion active dans ces fonds de dotation-là, puis même leur gestion active ne les amène pas à battre les indices boursiers. Ouais. Parce que le rapport souligne là, que pour 2018, si je regarde seulement que les actions US, les paniers d'actions US là, pour les fonds de dotation, c'était 13,6% de rendement, puis le Russell 3000, représentatif des actions US dans leur ensemble aux États-Unis, 14,8%. Ouais, donc, ils ont sous-performé les indices boursiers. Même dans les stratégies alternatives, là, le rapport souligne plusieurs rendements pour différentes stratégies. Puis si on regarde les indices pour ces stratégies alternatives-là, ils semblent sous-performer des indices pour ces stratégies alternatives-là aussi. Donc, oui, il y a eu des bons rendements. Mais si on compare à des grands indices, il semble que les rendements sont inférieurs.
OK. Puis je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui ont étudié ça. On a regardé ensemble, entre autres, l'étude de Barber et Wang. Oui. Barber et Wang, eux, ont justement étudié les données de Nakubo. C'était sur une période antérieure, là, sur 20 ans, de 1991 à 2011. Donc, quand même, on parle d'un échantillon là, avec beaucoup de points de données.
Oui, puis les grandes conclusions, c'est que les marchés publics, actions et obligations, expliquent en grande majorité les rendements des fonds de dotation. Ouais. C'est-à-dire les variations dans les rendements des portefeuilles sont expliquées à 99% par une allocation en actions américaines, en actions internationales et en obligations.
Oui, c'est presque un portefeuille 60-40.
Hein? Oui, 41% avec actions américaines, 21% actions internationales, puis 38% obligations.
C'est incroyable, mais c'est presque des chiffrons.
C'est presque des chiffrons. Leur rapport, par contre, souligne qu'il y a de l'alpha qui a été généré par les grandes institutions de l'Ivy League. 3% d'alpha qui a été généré.
Alpha, c'est très technique pour certains auditeurs, François. Peut-être que tu devrais faire le point.
La valeur ajoutée.
C'est ça, c'est la valeur ajoutée.
Du rendement, ils ont ajouté.
Ils ont bâti le marché. Le rendement excédentaire.
Ajusté pour le risque.
Oui.
Donc c'est assez... il parlait des Ivy League, puis aussi il parlait des organisations qui se démarquent, là, ce qu'il appelle...
Oui, par les tests SAT, par ouais. ceux qui veulent aller...
Parce que l'échantillon sont... Il y a 8 Ivy League Schools, mais il y a beaucoup d'universités qui sont très, très réputées où ça prend un score dans les tests d'admission très élevé. On pense à Stanford en Californie, on pense à Berkeley en Californie, on pense à MIT.
Donc, ils ne font pas partie de la Ivy League, mais
lui, dans ses études, il a dit, je vais faire un tri de tout l'échantillon des fonds de dotation, puis je vais aller chercher les grandes écoles qui ont des grandes réputations, qui, eux aussi, attirent beaucoup d'argent et qui ont des fonds de dotation qui sont très importants. En fait, son analyse, il s'est posé des questions à trois niveaux. Est-ce que le fonds de dotation moyen génère un rendement excédentaire par rapport au marché public? Deuxièmement, est-ce que les universités élites, donc le Ivy League plus le cohort sur lequel ils ont fait un tri, est-ce qu'eux génèrent de l'alpha et pourquoi? Et puis, est-ce qu'il y a de l'évidence que c'est persistant, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de faire ça sur des périodes prolongées? Fait que dans ce qu'il a découvert, puis lui, encore une fois, il a fait l'analyse en se terminant, comme tu as mentionné, en 2011. Donc, c'était assez récent, l'effet du crash. Puis, ce qui est encore plus récent, c'est que pendant des années, la réputation des fonds de dotation menés par M. Swenson, qui gérait Yale, il avait fait des rendements extraordinaires, mais arrive la crise financière et il a perdu 25 % de son portefeuille. Les gens ne s'y attendaient pas. Donc, il y a eu toutes sortes de crises. Même chose chez Harvard, ils ont des crises, des rendements très, très négatifs.
Harvard a été obligé de couper les projets de financement de l'université en 2008-2009.
Alors, c'est sûr que le monde a découvert la réalité, c'est que ces gens-là, ils ne marchent pas sur l'eau, pas plus que n'importe qui d'autre, en dépit de réputation qui était vraiment, très forte. Donc, François, tu mentionnais qu'ils ont... L'étude de Barber, ils ont trouvé qu'à certains niveaux, ils ont pu démontrer de l'alpha, mais c'est surtout dû au fait qu'ils ont fait des choix en placement alternatif.
Exclusivement à cause des placements alternatifs.
Donc, ils ont pris plus de risques.
Ils ont pris plus de risques. Puis aussi, ce que je note, c'est qu'une fois qu'ils intégraient, donc ils avaient comme un genre d'équation pour évaluer d'où venait le risque ou le rendement ajusté pour le risque. Et puis, tant qu'il restait seulement avec des facteurs de marché public, autrement dit, tant qu'il disait, bon, bien, jusqu'à où est-ce qu'on peut expliquer le rendement du portefeuille basé sur les actions, les obligations, qu'est-ce qui reste? Bien, il y avait ce qu'on appelle de l'alpha, donc il restait du rendement une fois les ajustements pour le risque de marché boursier et obligataire intégrés dans le modèle. Une fois qu'ils ajoutaient deux facteurs, un facteur pour les fonds de couverture et un facteur pour les fonds de placement privé, à ce moment-là, l'alpha disparaissait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le rendement excédentaire pour cette période-là s'explique par la présence de placements alternatifs, mais ne reflète pas une performance excédentaire, donc une excellence en termes de choisir les fonds de placement alternatifs.
Bien, il y a un papier de Vanguard qui essaie d'expliquer pourquoi ces grands fonds de dotation-là parviennent à avoir...
Eux aussi ont travaillé avec Nakubo. Hein?
Oui. Puis, eux, ils parlent, ils ont souligné quelques trucs qui essaient d'expliquer pourquoi les grands fonds de dotation surperforment avec les stratégies alternatives parce qu'ils disent, bon, bien, ils ont l'expertise, ils ont 10 à 25 experts à l'interne pour analyser ce type de stratégie-là. Ils sont souvent les premiers investisseurs puis des investisseurs significatifs dans les placements qui leur sont offerts. Ils sont capables de compétitionner sur des coûts ou demander des frais de gestion beaucoup plus bas sur ces stratégies-là.
Bien,
puis à cause que des élèves qui ont fait leur étude dans ces universités-là sont maintenant sur le marché du travail, bien, vont offrir aux universités, à ces fonds de dotation-là, leurs services. Donc, Vanguard tente d'expliquer la surperformance ou l'alpha généré.
Tu me dis que les fonds d'université ont accès à des gens de jeunes pousses qui ont tendance à être très, très productifs en début de carrière dans l'industrie des hedge funds.
Oui, tout à fait.
Ce qui n'est pas accessible à tout un chacun. Là.
Exact.
Parce qu'eux, ils ont la connexion personnelle avec ces gens-là.
Exact.
Très intéressant. Si on voulait faire un sommaire, là, rassembler un peu nos grandes conclusions. Qu'est-ce que vous avez appris là, de ces lectures-là? Donc, on a vu Nakubo, on a vu Barber, on a vu le papier de Vanguard. Il y a également un autre papier, je veux juste le mentionner rapidement, qui a été publié tout récemment, où au lieu de servir des données Nakubo, on se sert de données qui ont été générées par l'Internal Revenue Service, basé par le service des impôts américains. Puis eux arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Même au contraire, la valeur ajoutée est négative une fois qu'on ajuste pour le risque. Donc, très brièvement, maintenant, quand on fait la somme de tout ça, parce qu'il y a quand même différentes dividendes, il y a des nuances. James, peux-tu nous dire, toi, qu'est-ce que tu en retires là, de ces lectures-là?
Bien, pour nos auditeurs, ce qui est très intéressant, c'est que même si ces institutions ont accès à des ressources, ils peuvent se payer des budgets de recherche interne ou d'engager des spécialistes externes dans la sélection de gestionnaires, dans le choix d'allocation d'actifs. Ils ont beaucoup de misère à battre des indices d'un portefeuille indiciel que nous, on crée pour nos clients ici de façon très, très structurée. Donc, effectivement, si on avait plusieurs milliards de dollars, on s'attendrait à ce qu'on aurait accès à des outils de placement, à des véhicules qui nous permettraient de générer des meilleurs rendements que des plus petits portefeuilles. Et ce n'est pas le cas. C'est sûr que parce que les fonds dans les grandes dotations sont beaucoup plus gros, selon moi, ils ont décidé de prendre plus de risques. Ils ont peut-être aussi plus de pression pour générer une croissance pour pallier au manque de rendement des marchés publics. Mais de façon pratico-pratique, pour moi, c'est que ces grands fonds de dotation produisent des rendements plus élevés que les petites, mais elles semblent prendre plus de risques. Et si nous autres, on prenait plus de risques, bien, on aurait sensiblement les mêmes rendements avec les marchés publics. Donc, c'est très réconfortant pour nous de savoir que les stratégies qu'on implante dans nos portefeuilles de clients, ce sont les bonnes dans le contexte de ce qui se fait ailleurs quand les gens ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de ressources.
Oui, bon, on a parlé que les grandes institutions battaient ou généraient de l'alpha avec leur stratégie alternative, mais quand on regarde le rapport de Barber et Wang, on s'aperçoit que même les plus grandes institutions ne parviennent pas à battre les indices de référence. Puis si on prend l'allocation 41% US Russell 3000, un fonds indiciel, 21% en actions MSCI IFI, puis marché émergent, et 38% en obligations, si on construit un portefeuille comme ça, puis on regarde sur une performance sur une période de 10 ans, un portefeuille indiciel comme ça aurait battu les grands fonds de dotation et auraient battu l'ensemble des fonds de dotation.
Ça, ce n'est pas dans l'étude, mais c'est nous qui avons calculé ce benchmark.
C'est 6,9% de rendement pour les fonds indiciels, 6% pour les grandes institutions. Ça, c'est dans le rapport de Nakubo de 2018.
Mais là, ce qu'on a fait, on a fusionné un peu Nakubo avec le rapport Barber, parce que Barber nous a suggéré que cette allocation-là, 41%, 21%, puis 38% le dernier chiffre étant pour les obligations américaines, explique les rendements des fonds de dotation à 99%. Donc, on reprend cette répartition-là, on calcule le rendement en date de 2018. Paf, on tombe. En fait, il n'y a pas un segment de que ce soit les plus petites ou les plus grandes organisations qui arrivent à atteindre ce rendement-là.
Exactement.
Incroyable.
Donc, pour les petits investisseurs, je pense que c'est des fonds négociés en bourse, une stratégie indicielle est tout à fait bonne.
OK, merci beaucoup.
Merci, Ray.
Merci.
Nous espérons que cet épisode vous a été utile. Pour nous transmettre des questions, commentaires ou idées de sujets, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou par courriel à raymondk@pwlcapital.com. Je m'appelle Raymond Kerziro et je suis directeur de la recherche avec PWL Capital. PWL Capital gère des portefeuilles d'une valeur totale d'environ 3 milliards de dollars et offre le service de planification financière intégrée à ses clients fortunés depuis plus de 20 ans. Nos valeurs sont la priorité absolue à l'intérêt de l'investisseur, la rigueur et l'intégration de la planification financière et de la gestion de portefeuille au sein d'un même plan efficace.